Ce podcast métal est une présentation de La Cordonnerie chez Jerry, Melody Musicraft, la boutique Brouhaha, la chaîne YouTube Horreur FM, la brasserie artisanale À la dérive et le fanzine Crypt of Dr. Gore. Bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Metal Minded, le podcast métal des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, mais on est toujours live, ça c'est l'important. Puis au podcast aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, j'étais sûr que c'était pour dire ce soir, je me trompe tout le temps. Anyways, au podcast aujourd'hui, on reçoit un groupe qui est reconnu pour son engagement vers la cause animale, le végétarisme, le véganisme, l'écologie et la dénonciation de la surconsommation de masse, et ce depuis 25 ans. Ça me prenait plus de souffle, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Ils ont tourné l'Europe, le Japon, le Mexique et ont partagé la scène avec de grands noms dont Slayer, Hatebreed, Madball, Converge et All Out War, pour n'en nommer que quelques-uns. Ils décrivent leur musique et performance comme énergique, puissante et passionnée. Leur dernier album, Mask Enemy, est un album de feu qui ne vous laissera pas indifférent, mesdames et messieurs. J'ai nommé le groupe Primal Age. Puis avec nous, pour discuter ce soir, nous avons un des membres fondateurs du groupe, Dimitri. Salut Dimitri, bonsoir pour toi parce que...
Oui, il est 22 heures passées chez nous, mais ça va.
Ça va, ben parfait. Yes, on est bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis comme on fait d'habitude, on va commencer... Commencer comme on fait d'habitude, mon Yolin. Toi, tu bois quoi en cet après-midi? Peut-être un petit peu hangover?
Peut-être un peu fatigué, j'ai bu un petit peu hier, mais c'est correct. Je suis en forme, je suis heureux d'être là. J'y vais avec une petite bière de nos bons chums de la brasserie Bas-Canada. Donc, la bière s'appelle la Quadricomie. Donc, pour célébrer leur anniversaire, il y avait sorti cette excellente bière qui est une double IPA à 8%. Donc, bien sûr, je sais, Dimitri, tu ne consommes pas d'alcool. Donc, tu vas nous suivre avec un bon verre d'eau, je crois.
Je suis une sorte de thé là, que je bois.
Ah, parfait.
Parfait, ça. Ben ouais. C'est bien parfait. Puis toi, Simon, qu'est-ce que tu consommes cet après-midi?
Ben moi, à l'habitude, à chaque fois, quand on a un podcast en après-midi, c'est toujours le typique. Puis surtout, à chaque fois qu'on reçoit un invité français, je veux toujours lui faire vivre l'expérience québécoise à fond. Donc, j'ai un merveilleux Bloody Caesar, un peu épicé, avec dans le fond, c'est du jus, pas du jus de tomate, mais c'est du jus, c'est quoi le...
Du jus de légumes, là.
Ouais, c'est comme un genre de jus de légumes, là, alcoolisé, puis on met des légumes là-dedans, puis en tout cas, c'est très...
Ça sent bien.
C'est très nord-américain, on va dire comme ça. Puis il y a même des vidéos YouTube, c'est des Écossais qui essayent ça, puis ils ont le goût de vomir. Puis moi, je trouve ça excellent. Donc, santé.
Santé. Bien sûr, notre prochain segment est le même à toutes les semaines. C'est qu'est-ce qui nous fait triper dernièrement? Donc, je me répète, que ce soit des livres, des films, téléséries, musique, jeux vidéo, n'importe quoi qui nous a fait triper. Je commence par toi, Simon. Qu'est-ce qui t'a fait triper dans la dernière semaine?
Hey, moi, je te dirais je veux pas dire pas tant de choses que ça. Ben, je suis encore en train de réécouter mes top albums de 2020, tu sais, fait que j'écoute quasiment...
De 2020, t'as reculé d'un an.
Excuse, 2021, tab, ouais. Time travel. Puis je suis encore pogné, moi puis ma blonde, on est pogné sur CSI Las Vegas, mettons, là, puis parce qu'il y a une nouvelle série qui est sortie ou qui va sortir bientôt, fait que... Puis ma blonde n'avait jamais écouté ça, fait que elle avait jamais écouté, fait que là, ben... J'ai fait découvrir ça, puis elle aime ça beaucoup, donc on écoute pas mal.
Parfait,
c'est
ça.
C'est pas mal ça pour moi.
Donc, j'y vais à toi, Dimitri. Qu'est-ce qui te fait triper dernièrement, que ce soit film, n'importe quoi, télésérie, musique, la plateforme est à toi.
Je t'avoue avec la musique, j'ai tendance à écouter des vieux trucs. Assez nostalgique, donc il y a des trucs que je redéterre là plutôt en ce moment, des groupes qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont démarré en même temps que nous. Donc Là, je suis plus en train de redécouvrir en fait des groupes européens ou américains que j'ai écoutés il y a 25 ans. Et voilà, tu fais du tri, tu dis il y a des trucs qui ont bien vieilli, d'autres un peu moins. Okay. Et puis, je suis en train de lire du Dostoïevski dans le texte, c'est-à-dire en cyrillique. Donc, je suis en apprentissage, je profite de mon apprentissage en russe.
OK.
Et je m'habitue à lire un petit peu en cyrillique.
Waouh, intéressant.
Cinéma, en ce moment, moi, j'y mets pas les pieds parce que la situation actuelle, elle est un peu,
ouais,
un peu merdique. J'ai une copine qui n'est pas vaccinée, donc qui est refusée partout. Donc,
on reste à la maison dans ce temps-là.
Voilà, c'est ça.
C'est pas de trouble. Donc, moi, pour ma part, ben, Simon, tu sais que j'ai un petit faible pour le groupe Keten Eskimo Callboy. Ouais. Ben, Chris, ils ont sorti une nouvelle toune vendredi. Je pense que je l'ai entendu au moins 50 fois depuis sa sortie. Mes enfants l'adorent. La vidéo, il est super drôle, comme d'habitude. La toune s'appelle Pump It. Puis ça parle d'eux autres qui workout comme des fous dans le gym. Puis c'est comme un workout vidéo des années 80. Puis c'est super drôle. J'adore la thématique humoristique de ces gars-là. Shout out, c'est des génies pour vrai de marketing. Là. Ils l'ont tellement, ça n'a aucune classe. Puis avant de sortir le vidéo, en plus, ils avaient fait comme un fake vlog d'eux autres qui s'entraînent pour le vidéo. C'est du pur bonbon. Pour vrai, là, ça n'a aucune classe. Puis comme toi, Simon, je suis un peu dans mes écoutes de l'année. Regarde, pour juste te montrer, ils sont tout à côté de moi. Je suis en train de repasser, tu sais, de Chadel à Gomo à Necrotic Gorbies, The Valiant Process, Werewolves, Pestilent Age, que j'avais vraiment bien aimé, Aborted, que j'ai bien aimé. Mais il faut que je donne un petit shout-out à mes petits chummés, nos chummés pas mal comiques de Hatalum. J'ai commandé un petit bundle d'eux autres avec un beau T-shirt que tu vois pas parce que j'ai une grosse barbe. Fait que beau T-shirt de Hatalum qui vient avec, bien sûr, leur excellent CD sorti cette année. Mais la crème sur le Sunday du bundle, ils m'ont envoyé une photo de Noël avec un hamburger dans les mains que je trouve super. Je trouve ça complètement débile. Je trouve ça awesome. Et des pics de guitare avec le visage à Romano dessus. Encore une fois, je trouve ça sublime comme merch. Mais bon. Puis aussi, j'aimerais ça faire un petit shout-out à Cold Dark Matter Records qui est dans le chat en ce moment. Mm-hmm. Donc, notre chum Damien. Puis regarde ça, si je l'ai à côté de moi en plus.
Ah ben, on dirait que tu y as pensé.
On dirait que j'y ai pensé, hey! Puis vu qu'on est en France, ben j'ai finalement tout lu mon dernier Dr. Gore. Donc, il me restait comme une couple de reviews à lire. J'ai tout fini ça. Fait que là, je suis prêt pour le nouveau, que je sais qu'il s'en vient bientôt.
C'est ça, je suis pour dire, juste attends pour le prochain qui s'en vient très bientôt.
C'était très pas planifié pantoute de plugger ça. C'était pas planifié pantoute.
Non, non, c'était pas arrangé.
T'as pas arrangé que le gars des vues. Puis c'est pas mal ça pour moi dernièrement. Donc, bien sûr, on arrive dans le segment dont on parle du groupe présent. Donc, bien sûr, ma première question reste pas mal toujours la même. Primal Age, vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous existez depuis quand? Parle-nous un peu de l'historique et de l'idéologie Primal Age.
Alors, pour faire un court, parce que ça fait quand même à peu près 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on est là. On a démarré officiellement, on va dire, en 93. Du groupe d'origine, il va rester Didier au chant et moi à la basse. Et forcément, en 28 ans, il y a eu quelques changements dans le groupe. Hein. Ça, c'est,
ouais,
surtout qu'on est un groupe amateur. Donc, il y a eu des changements pour raisons familiales, pour des raisons de boulot ou d'orientation musicale, ou enfin, tout un tas de raisons. Quoi. On a eu l'occasion de jouer, on doit être à pas loin d'un millier de concerts, je pense, maintenant.
Ça, ça doit être, ça doit être tout un honneur de dire on a fait environ 1000 concerts. Là. C'est...
Voilà. Ben, pour un groupe amateur, je pense que c'est pas mal.
Oui.
Et la chance qu'on a, c'est que ouais, on a eu l'occasion de partager la scène avec vraiment tous les grands noms du métal et du hardcore. Mm-hmm. Quand on a listé, on s'est dit il nous manque quoi ? Il nous manque Machine Head et puis en métal. Et puis peut-être Psycho Fito en hardcore, mais sinon on a joué avec tout le monde. Wow. Donc ça, c'est une grande chance qu'on a. On a joué dans 13 pays, on a joué sur 3 continents. Tu le disais, on a fait Mexique, Japon, on est au Brésil aussi, on a tourné au Brésil. Et voilà, donc on a fait pas mal de gros festivals. On a été 2 fois sur le Hellfest chez nous. Alors, il en reste plein à faire. Et puis, on a encore plein de coins qu'on a envie de faire. Donc, on a hâte que la situation elle se débloque un peu parce que là, on ne sait pas, même pour jouer chez nous, on ne sait pas si la prochaine date on va la faire. On a une date au mois de janvier. On va prendre le train pour aller jouer. Et là, on ne prend pas les billets parce que d'ici, ça ne se fait pas, c'est pas remboursé. Et puis, donc, on attend pour prendre les billets. On attend que ça se débloque un peu parce qu'on sent que c'est un peu timide, un peu frileux au niveau des orgas de concert, et c'est normal parce qu'il y a des festivals qui sont à leur 3e report d'affiche.
Oui.
Et 2020, ça a été reporté sur 2021, ça a été reporté sur 2022, puis il y a les derniers qui parlent déjà de... Enfin, qui ne sont pas sûrs de pouvoir avoir leur édition faite en 2022. Donc, bon, voilà, on fait avec, mais ça devient long et...
Ouais.
On commence à trépigner, on trépigne. On a eu l'occasion de faire qu'un seul concert là depuis que ça a été réouvert un petit peu chez nous.
Quoi. Wow.
Et on a fait une date pour le moment. Donc,
la situation est vraiment pas évidente pour personne. Puis je sais, de ce que je peux voir en ce moment, je sais qu'en France, la situation est redevenue pas superbe en ce moment. Il y a plusieurs concerts, je sais, qui ont été reportés de ce que j'ai pu voir. Fait que c'est pas super le fun, mais bon. On va parler de choses autres que ça parce que on est là pour avoir du plaisir. Primal Age, comme tu as mentionné, vous existez depuis 1993. Vous avez eu plusieurs vagues de release. Puis c'est comme, de ce que j'ai pu voir, c'est comme votre renaissance avec ce nouveau CD. C'est Primal Age qui revient en force avec son line-up actuel parce que ça faisait quoi, 11 ans depuis le CD auparavant?
Ouais, non.
À part le EP, là, il y avait un EP qui avait 4 ans avant, je crois. Là.
Ah, il y en a eu 2. Je crois qu'il y en a eu 2.
OK. Okay. Ah,
ouais. Okay. Quand on voit souvent, quand on cite nos discographies, il y a souvent des 4 titres qui sont mis de côté, en fait, qui n'ont pas été cités. Mais
okay.
C'est vrai qu'on n'enregistre pas, on va pas en studio très, très souvent. Ça, c'est clair. Okay.
Puis c'est ça, 2021 a été comme la... Je trouve que ce CD-là est comme un coup de poing en pleine face de... On est encore là, on est autant solide qu'à nos débuts. On ne lâche pas la machine, puis on y va all in. Là. Je trouve ça débile.
Ouais, ben, tu sais qu'on nous a posé des fois la question en se disant qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils commencent à être vieux, ils vont se ramollir. non, c'était pas le projet. Hein.
Non, c'est ça. C'est un album qui cogne tout autant que le premier.
Oui.
Puis c'est une formule d'hardcore qui est super intéressante, super le fun. Moi, étant un gars de death metal et de grind à la base, j'aime mes phases d'hardcore quand même. Puis je trouve ça intéressant parce que vous êtes classé, dépendant où ce que vous regardez, vous êtes classé hardcore, des fois metalcore. Mais moi, je suis en plein centre de ça. Je vous appellerais du Metallic Hardcore, le bon vieux stock des 90, là. Le vrai hardcore, le vrai metalcore, comme tu avais mentionné, Simon, tantôt, quand on jasait. Ce qui est le metalcore de base, quand ça a été créé, ça, c'est Primal Age. Moi, c'est le son que je ressors de ça, puis je trouve ça excellent.
Ben, écoute, je t'avouerai qu'on, des fois, on se marre un peu quand on lit les chroniques parce qu'effectivement, chacun entend en fonction de ses sensibilités. Mm-hmm. Donc, on va avoir à peu près... on a recensé une bonne dizaine d'étiquettes. En fait.
OK. C'est quoi la plus farfelue que vous avez eue?
Ah, farfelue, je... Il y a personne qui a osé nous mettre néo-métal, heureusement. Mais... non, mais on nous a déjà étiqueté. Je crois qu'on a dû, étiqueter black metal. Ouais. Black metal.
Ça, wow.
Je n'ai pas compris.
Wow. Non. C'est comme, hey, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu l'autre jour. Simon, tu vas te rappeler de la référence, mais tu sais, la vidéo que moi et Jean, on a faite quand on était au chalet.
Ouais, ouais.
Puis qui a parlé de son festival qui était venu à Montréal, puis qui avait Voivod sur l'affiche. Bien, sur ce show-là, Voivod avait été classé Power Metal.
Wow.
j'ai fait. Power Metal, wow. Hein? Ouais.
Wow.
Fait que, pour étiquette farfelue, je pense que celle-là est quand même assez comique.
Ouais, j'aime.
Après, nous, quand on nous pose la question, on va dire qu'on fait du metal hardcore. Voilà, parce qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Et pour ceux qui sont un peu plus. Qui connaissent un peu plus la scène hardcore, on peut aussi se coller l'étiquette de Edge Metal. Voilà, parce que, fait partie de cette vague, on était dans les premiers groupes européens à faire du issu de la scène hardcore, à faire du métal, et en étant un groupe étiqueté straight edge. Il y a toute une vague de edge metal avec Archangel, avec des groupes comme ça en Europe.
Archangel.
Avec lesquels on a joué il y a 2 ans de ça, je crois. On les a revus, on en a joué avec eux.
Super, ça. Puis regarde, tant qu'à aborder le sujet, bien sûr, le edge metal, pour ceux qui ne connaissent pas ça, si tu peux décrire ça un petit peu. Et est-ce que tous les membres du groupe adhèrent à cette idéologie?
Non. Non, en fait, c'est les deux vieux, c'est Didier et moi. Il y a Flo aussi, maintenant, on a un guitariste qui, à force de nous suivre, quand il est arrivé dans le groupe, il s'est dit « Merde, en fait, j'ai l'impression d'être plus fatigué à la fin d'un concert que les deux vieux. » Donc, peut-être qu'on l'a inspiré sur le niveau de l'hygiène de vie. Sinon, c'est pas le groupe entier, parce que déjà, faire une formation qui tient la route dans notre secteur, c'est déjà assez compliqué. Tu vois, il y en a un, on est tous à une heure et demie de route les uns des autres, en fait, pour la plupart. Quoi. Donc,
OK, quand même.
Puis c'est ça, l'idéologie straight edge, c'est bien sûr pas d'alcool, pas de drogue, rien de ça.
Ouais, mais on ne veut pas prendre la tête aux gens avec ça. Quoi.
Ben non, c'est ça, c'est correct, c'est juste, ben, j'aime ça quand même. J'aime ça qu'on en parle. C'est la première fois, en fait, qu'on reçoit quelqu'un qui est straight edge sur le podcast, puis je trouve ça super intéressant de parler de cette culture-là. De cette idéologie-là, en fait, parce que, bien sûr, nous, on boit de la bière, puis on n'est pas là. Puis je trouve ça de discuter avec les gens sur des sujets autres que qu'est-ce qu'on est habitué, tu sais.
Oui, il n'y a aucun souci. Puis, de toute façon, on sait bien que dans la scène métal, oui, la bière, ça coule à flot.
C'est... Oui, dans la scène métal, la bière, ça coule à flot. Voilà, ça, faut l'avouer.
On n'est pas, on prône pas la prohibition. C'est bon.
Non, c'est ça.
D'ailleurs, un guitariste qui boit sa petite bière après chaque concert. Ouais.
Oui.
Non, c'est vrai que c'est un choix de vie.
La seule règle, c'est qu'on ne veut pas de musiciens qui soient bourrés sur scène. Voilà.
Ouais, je respecte ça.
Ça, je ne suis pas straight edge, puis je ne veux pas de musiciens bourrés sur scène non plus.
Non. Je vois juste la dernière performance de Abbott là, quand vous dites ça. Là. qui était comme vraiment comme ça, là, puis c'était désastreux. C'est comme...
Ben, il s'est check-in en rehab.
Oui, je pense qu'il est allé en rehab après. Ouais.
Je pense qu'il n'y a que le mec qui est bourré quand il est sur scène qui a l'impression qu'il joue comme un dieu, mais.
Ouais.
C'est pas ça. C'est pas ça. Voilà.
Oui, c'est ça. Ça ne marche pas, là. Puis, bien sûr, il y a aussi l'idéologie vegan que vous avez. Je crois, toi, tu es vegan?
Oui, moi, je préfère dire que je suis végétarien. Mais,
végétarien, OK. Ouais, puis, est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans le groupe aussi?
Oui, on est pareil, on est trois, toujours pareil, Didier et Flo. Ouais.
OK.
Les plus jeunes sont, je veux dire, ils ne sont pas... Peut-être pas encore concerné, peut-être que ça viendra, mais on veut pas, c'est pareil, on veut pas les. n'impose rien par rapport à ça. Quoi. C'est, si ça vient pour eux, ben, on sera d'autant plus content parce que ben, ça sera cohérent par rapport à certains textes. Ou, voilà. Mm-hmm. Et, ouais. Quand on était jeune, on était un peu plus virulent et on s'est rendu compte que ce n'est pas du tout la bonne démarche et que les gens, quand tu les prends trop frontalement, ils ont une réaction de protection, ils rejettent, ils ne vont même pas écouter ce que tu vas dire. C'est ça. Et moi-même, quand j'entends, parce que le véganisme est devenu entre guillemets à la mode, depuis 3-4 ans en France, on en parle à toutes les sauces et on voit les gens être ultra hardcore au niveau du véganisme. Et on a l'impression de se voir il y a 25 ans en arrière.
Ouais.
Où on rentrait dans la gueule à tout le monde par rapport à ça. Et c'est contre-productif. Quoi. C'est bien de poser une chose, d'expliquer pourquoi, de faire le lien avec à la fois la souffrance animale et puis les dégâts occasionnés au niveau de la planète. Il n'y a pas besoin pour ça d'être virulent. Et puis, c'est, encore une fois, ce n'est pas parce que tu as trois véganes dans un coin que la planète va aller mieux par rapport à si l'intégralité de la population déjà se dit tiens, ben, je vais manger un peu moins de viande, ce qui est beaucoup le cas maintenant. Il commence à y avoir un petit peu un retour en arrière. Je pense que les animaux s'en porteront que mieux. Et il n'y a pas besoin pour ça de. Voilà, c'est pas un concours le véganisme. C'est pas.
Non, mais regarde, moi j'ai pour mon dire qu'un bon ballon dans la vie, c'est là que ça se passe. Tu sais, comme tu dis, végétarien ou que tu peux consommer certains produits, ces choses-là, j'en fais comme un peu partie. Je ne me label pas là-dedans du tout, mais j'ai une allergie aux produits laitiers. Donc, à la base, j'ai une alimentation similaire à quelqu'un qui pourrait être vegan ou ces choses-là, tu sais, le lait de cachou, puis tous ces éléments-là. Donc, moi, j'ai pour mon dire qu'un beau balan dans la vie entre manger un peu de viande et manger les légumes, je dis, tu sais, quelqu'un qui va à la chasse, que c'est la viande que lui-même a été chercher, je respecte ça à un certain niveau. C'est le mass killing qu'on pourrait dire qui est la chose qui ne fonctionne pas. Mais bon.
Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je pense qu'effectivement, il y a peut-être plus de chasseurs qui vont chasser dans les grands espaces et puis qui vont se nourrir. Chez nous, la chasse, elle est plus récréative, entre guillemets. Quoi. C'est plus...
Ouais, ici, tu sais, on est en nature ici. Là. C'est de la forêt à grandeur. Oh, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que les chasseurs, ils vont chasser, ils ramènent pretty much le butin à la maison, puis ouais. T'as de la viande pour l'hiver.
Oui,
voilà.
À l'automne surtout, puis c'est très réglementé aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment je pourrais dire, il n'y a pas d'excès. Là. Non, c'est ça. Fait qu'au moins ça, là, il y a le gouvernement qui regarde pas mal. Là.
Dans les espaces de chasse, il n'y a tellement plus rien à tirer qu'ils sont obligés de faire des lâchers tous les ans et ça devient ridicule. Quoi. C'est-à-dire que tu ne vois rien tout le reste de l'année, puis là, ça va commencer à rêver où tu vas avoir plein de sangliers sur les routes, etc. Dans des coins où il n'y en a jamais. Ça faisait 20 ans qu'on n'en voyait plus, puis maintenant, arrivé au mois de novembre, décembre, tu commences à en voir partout. Et c'est là que, ben voilà, avant, ils faisaient des lâchers de faisans, maintenant, ils font des lâchers de sangliers, de biches, etc.
Waouh!
Argumenter sur la régulation de la nature, tout ça, en disant, stop, arrête-toi là.
C'est ça.
T'aimes tuer des animaux, assume, et puis.
Ici, ça revient un peu à ce qui s'est déjà passé dans le passé au Québec. Ici, il y a un oiseau qui n'existe plus au Québec à cause de ça, c'est la tourte, justement, qui est la base originale de ce qu'on appelle nos tourtières. Puis c'est parce que ces oiseaux-là étaient tellement stupides, tu pouvais quasiment comme y aller, puis tonk, ils étaient super lents. Fait que les gens les ont exterminés. Là. Fait que c'est triste, des histoires comme ça. Mais bon, on va revenir un peu à l'album. Puis bien sûr, ce qui est important pour moi dans tout album, c'est toujours les sujets abordés. Je trouve ça super intéressant. J'aime lire les textes. J'aime découvrir de quoi le band veut parler. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de l'idéologie derrière cet album, le concept de Masked Enemy et de quoi vous parlez sur cet album.
Alors, en général, on fait pas, un album concept, okay. Mais on garde d'album en album le fil conducteur de la cause animale, protection de l'environnement. Mm-hmm. L'idée, c'est d'avoir toujours deux, trois textes qui vont traiter du sujet, mais abordés sous un angle différent de ce qui a été fait sur les albums précédents, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, et après, ça reste ouvert à, j'ai envie de dire, à tout ce qui est... Tout ce qui peut nous inspirer, quoi. Donc, c'est moi qui écris les paroles.
Okay.
Pour ça, je peux t'en parler plus facilement, peut-être. Évidemment, je connais très bien Didier, hein, qui est au chant. Donc, je sais que lui, c'est tout ce qui va toucher au véganisme, etc. C'est les sujets qu'il préfère,
okay.
Faire aborder. Mais j'essaie toujours d'amener quand même quelques réflexions sociale ou des choses comme ça en plus pour agrémenter, parce que justement je trouve que nous-mêmes, si on est devenu extraterrestre ou végétarien vegan, c'est parce qu'on a écouté des groupes, on a lu les paroles, on a été inspiré par ça. Mmh. Et on se dit voilà, la musique, ça reste un vecteur super puissant pour faire passer des idées. Donc après, j'ai rien contre les groupes qui s'en foutent de ce qu'ils racontent ou qui veulent déconner dans les textes, mais ça n'a jamais été trop notre optique. On s'est dit, voilà, on va utiliser ça pour passer certains messages parce que ça semble intéressant. Mmh. Et après, on ne sait pas. Tu me dis que tu lis les textes, donc c'est bien, merci. Parce que on ne sait pas si. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, mais juste pour la musique. Et il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Maintenant, on voit aussi de plus en plus de gens qui viennent discuter après les concerts et qui veulent en savoir un peu plus. Notamment quand tu parlais du véganisme, c'est vrai que dans la scène métal, c'était quelque chose qui était beaucoup moins répandu que dans la scène hardcore, où il y a, oui, toujours eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de véganes, enfin, depuis longtemps. Et voilà, après, le masque ennemi, alors on nous a fait la réflexion parce qu'on pensait que c'était lié à la situation actuelle, ça n'a rien à voir. En fait. Les textes, okay, je les avais écrits ils doivent avoir 5 ans maintenant, les textes. Donc, tu vois, ils étaient, okay, prêts depuis longtemps. Et c'était une réflexion sur le fait qu'on perdait beaucoup le contrôle en tant que peuple de nos destinées, que les personnes qui nous... Les élites, en général, fonctionnent hyper bien pour manipuler les masses via les médias. C'est pareil, moi, tout ce qui est télé, tout ça, j'ai décroché depuis longtemps parce que je ne supporte plus de regarder un bulletin, ouais, d'information à la télé, ça m'insupporte. Donc, mais tout est fait pour que les gens, en fait, ils soient, même au niveau de l'Internet, t'es tellement noyé dans les informations que ça devient hyper compliqué de se faire des avis sur tel et tel sujet. Dès qu'il y a un sujet polémique qui arrive dans un pays, tout de suite, tu vas avoir des posts dans tous les sens, ça part dans tous les sens, et ça devient hyper compliqué de faire le tri de tout ça. Et au final, je me dis, bah, les personnes qui sont en place, de toute façon, bah, elles restent en place. Et les vraies personnes qui tirent les ficelles, elles sont plutôt en arrière-boutique, c'est-à-dire qu'on te met des pantins politiques en façade. Ils sont interchangeables, ça ne va pas, de toute façon, ils vont se faire bouler, on en mettra d'autres à la place. Mais en arrière-boutique, ce sont toujours les mêmes qui tirent les ficelles. C'était un petit peu l'idée qu'il y avait derrière Mask Enemy. Et je trouve que ce système-là, il est très, très bien huilé, il fonctionne super bien. Et il y a tout l'appareil médiatique ou judiciaire derrière qui est là pour aider à ce fonctionnement-là. Et que, du coup, on voit beaucoup de gens de plus en plus énervés, mais ils ne savent plus tellement vers qui, en fait, parce que sur qui on va taper. Donc, on va dire, ouais, là, on a un président qui est pourri, on va le virer, mais ça fait, je ne sais pas, depuis 5, 6 ou même plus présidents, à chaque fois qu'on a une élection présidentielle, enfin, en France en tout cas, on s'en fout pour qui on vire, on veut juste virer celui qui est en place. Voilà, tout le monde sauf lui. Et là, ça reste.
C'est toujours ça. C'est toujours ça. Je pense que c'est partout dans le monde, ça. Ici, ouais, c'est hey, on est tanné de lui. On va prendre le meilleur next.
Voilà.
Puis tu reviens à la même histoire. Même histoire.
Et on se dit, ça ne peut pas être pire. Et en fait, si on a l'impression qu'à chaque fois, on descend un étage de plus, c'est, on s'enterre. Mm-hmm. Et donc, ça devient problématique. Et puis après, voilà, on a un choix donc, qui est fait tout, systématiquement par défaut. Quand tu vois les mecs sur la liste de départ, tu te dis, mais j'en vois pas un qui peut me représenter. Donc, tu fais des choix par défaut en permanence. Et puis, il y a tout le jour un qui arrive à créer un espoir nouveau. Et puis, très rapidement, c'est de plus en plus rapidement maintenant que les gens sont déçus après l'élection.
Oui.
C'est pour ça qu'il y a aussi de moins en moins de gens qui votent. Alors, ça, je peux le comprendre. Par contre, il faut s'intéresser quand même à la chose politique. Il faut surtout pas laisser ça dans les mains des politiciens en disant c'est votre boulot et nous on s'en occupe pas, parce que là, ça c'est la chose la plus dangereuse, je pense, qui soit. Ouais. Mais quand ils nous parlent de représentation nationale, tu as juste envie d'éclater de rire, quoi, parce qu'ils représentent une petite oligarchie hein, qui est bien en place.
Ouais.
Et voilà.
Mais.
Un peu qu'il y avait derrière cet album, enfin derrière le titre Masque Ennemi. Et bien,
voilà. Super. Bien sûr, par rapport aux lyrics puis tout ça, aux paroles, les chansons, j'aime toujours demander aux gens laquelle était la plus personnelle sur cet album. Laquelle chanson était la plus personnelle et pourquoi? Surtout que là, j'ai la personne qui a écrit les paroles. C'est encore mieux. Je ne l'ai pas toujours, cette personne-là. Là.
Alors, pour deux secondes. Je vais tricher un peu. Hein. Peut-être. La première, Wise Old Man. Alors, pourquoi? En fait, on a été deux à composer cet album avec Flo, qui est donc le guitariste. Et comme moi, j'étais le seul vieux musicien du groupe, j'avais amorcé l'album il y a quelques années. Je suis à peu près 5 ans maintenant. Mm-hmm. Et en espérant justement être rejoint par des guitaristes, parce que je savais que je ne pouvais pas faire un album complet. Et donc, c'était le premier titre, en fait, Wise Old Man. C'était le premier. Le premier riff de l'album, c'est le premier que j'avais sorti. Voilà, donc, tout simplement. Et puis le texte en fait, je m'étais inspiré des vieilles paroles de Sitting Bull hein, qui avait dit qu'une fois que l'homme blanc aura pollué en gros les eaux, la terre, etc., il se rendra compte que l'argent ne se mange pas en fait. Donc c'est ce qui m'avait orienté pour écrire les paroles de ce texte-là.
Okay.
Donc ouais, c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur, parce qu'en plus on a eu beaucoup beaucoup de mal, on a eu des galères de batteur à répétition, et il a été compliqué à mettre en place parce que c'est le premier qu'on a essayé en fait,
okay,
en répétition, et ça a mis beaucoup de temps à décoller. Et donc le gars qui est sur l'album en fait, il fait pas partie du groupe, le batteur, il s'appelle Rudy, il joue dans Explicit Silence, et c'est lui qui nous a sorti du sable, parce que voilà, à un moment, il a vu qu'on ne s'en sortait pas avec le batteur qu'on avait officiel dans l'équipe. Il a demandé à écouter, et puis alors lui, direct, ça a été ultra rapide, et ça a été droit dans le mille, ça a été exactement ce qu'on voulait. Et donc, c'est pour ça qu'on lui a dit, écoute, si tu es OK, continue comme ça, et tu fais l'album avec nous. Parce que, voilà. Mais avec Flo, donc, qui est guitariste, on a eu pas mal de temps à désespérer, parce que justement la batterie c'était pas du tout celle qu'on avait en tête. Okay. Et la batterie, bah, chez nous, elle a une importance quand même assez importante. Un peu débile comme phrase, elle est super importante. Et donc quand tu vois que ça avait plutôt tendance à enterrer les riffs qu'elle est boostée. Et donc c'est pareil, je voyais Didier d'un côté qui écoutait, il me disait, ouais, j'ai l'impression que je suis pas sûr, le riff, je suis pas sûr. Je lui disais, mais aie confiance, tu verras, quand tu auras la bonne batterie derrière. Et ben, la preuve, c'est qu'en fait, aussi bien les morceaux que j'ai faits que ceux qu'a fait Flo, on n'a rien changé au niveau des guitares. C'est juste la batterie qui a changé. Et à un moment, quand la batterie était bonne, on dit, ben voilà, ça y est. Voilà. Et là, même les autres là, du groupe qui n'avaient pas forcément participé à la composition, ils ont fait, ah ouais, ouais là, d'accord, là, on voit où ça va. Donc, ça a été hyper frustrant parce que toi, quand tu as tout en tête, tu sais comment ça doit sonner.
Ouais.
Et que, après, moi, je ne suis pas batteur, donc je ne peux pas prendre les baguettes et dire, tu me fais ça. Je peux expliquer un peu, mais là, quand ça ne passe pas au niveau communication avec un musicien, c'est compliqué. Quoi. Et c'est hyper frustrant quand il met des trucs dessus, tu dis, mais non, pas du tout.
Tu n'es pas à bonne place, là.
Non, c'est pas du tout ça. Quoi. Donc, ouais, un grand merci à Rudy, parce que sans lui, je ne sais pas si on serait allé au bout de cet album, parce que ça faisait quand même déjà une paire d'années qu'on ramait, puis au bout d'un moment, tu dis, bon,
qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on s'en va ? Ouais, c'est ça.
Voilà.
Donc, parfait.
Un grand merci à lui. Donc, ouais, je citerai ce tout premier morceau, parce que je dis, c'est le plus ancien au niveau composition.
Parfait.
Et c'est celui avec lequel on a ramé, et finalement, voilà, quand il a été mis en place, on s'est dit, bah, c'est bon, maintenant, voilà. On rattrape le temps perdu. Après, ça a été super vite. Hein. Une fois que Rudy nous a rejoints dans l'aventure, franchement, il a été hyper efficace. Et puis, il nous a fait une batterie de tueur en studio. Il a tout rentré en une journée. Et ça a été hyper plaisant de bosser avec un gars comme ça. Quoi.
Je seconde la performance parce que moi je suis batteur puis c'est assez efficace, je dirais. Moi j'avais une question, ça tombe bien que tes textes préférés c'est Wise Old Man, parce que moi j'avais une question sur l'intro de l'album. Ouais, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui était le processus pour vous arrêter sur le choix de l'intro d'utiliser des clips de ces Seven Culisses Suzuki, je ne me trompe pas, de 1992. J'ai entendu l'intro, puis éventuellement, en faisant mes recherches, j'ai vu d'où ça venait, l'origine de ça, puis j'ai fait comme, ah, intéressant, tu sais, fait que je voulais juste en savoir un peu plus là-dessus, qu'est-ce qui...
Alors, je vais rendre hommage à un autre pote, parce qu'en fait, cette intro-là, bah, c'est la seule idée qui vient pas du groupe. Ça vient d'un pote à nous,
okay.
Sylvain, qui jouait dans un groupe de hardcore old school, Seekers of the Tool, qui était batteur, avec lequel on a joué. Il était guitariste dans un side project qu'on a eu entre 2000 et 2005 qui s'appelle Absone.
Mm-hmm.
C'est un projet edge metal. Et c'est pareil, bah, il m'avait appelé un jour en me demandant des nouvelles. Et il dit, alors, ça avance l'album, etc. J'ai fait, non, avec la batterie, on ne s'en sort pas. Alors, comme lui, c'est pareil, il était batteur. Il m'a dit, écoute, envoie-moi un son et puis je te dis ce que j'en pense. Et donc, je lui avais envoyé Wise Old Man. Et il a bossé l'intro à la batterie. Et il avait collé ça en intro, ce petit discours, avec en samplant un petit peu le premier riff. Et en l'écoutant, bon, déjà, je me suis dit, OK, avec la batterie, c'est bon. Il a compris direct aussi ce que je voulais. Donc là, j'ai fait, là, on est sauvé. C'est pas dans ma tête que ça déconne. C'est bien la batterie qui le fait pas. Et puis après, en faisant écouter aux autres, on s'est dit, en fait, l'intro, l'idée, elle est carrément bonne. Donc on l'a validé, on l'a gardé, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, après, il faut que je mette un texte qui soit en rapport avec ça. Donc j'ai pris dans ma liste de textes et donc j'ai mis ce texte Wise Old Man. Ça s'est fait comme ça, donc c'est une petite parenthèse, c'est une petite aide extérieure qu'on a eue, Monsieur Sylvain, un super grand bonhomme de la musique chez nous aussi.
C'est cool, super ça. Ce que je trouve hot, vous semblez un band qui aime ça faire, comment j'appelle ça, tout hands-on. T'sais, vous êtes très, on le fait nous-mêmes, on s'occupe de nos choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait au courant de votre carrière, de comme vraiment s'occuper de absolument tout? Puis c'est pourquoi que vous avez décidé de jamais aller ailleurs? C'est vraiment juste vous, garder le pouvoir. Là, c'est pourquoi cette idée-là?
Alors,
je respecte ça à 100%. Là, comme je suis ultra, ultra respectueux envers ça, j'adore.
Alors, pour faire simple, j'ai envie de dire que au départ, c'est un peu par défaut, parce que quand tu démarres, t'as pas d'aide, il faut bien que tu fasses les choses par toi-même.
Mm-hmm.
Didier, qui a aujourd'hui 53, 54 ans, je ne sais plus, notre chanteur, il a toujours, toi, lui à l'époque, il faisait même des recherches de concerts à la main, il écrivait des lettres, il n'y avait pas Internet encore. Mm-hmm. Donc, t'imagines, ça remonte à... C'est la préhistoire, tu vois.
La préhistoire.
Et donc, lui, il a toujours géré cette partie-là, tout ce qui est recherche de concerts, booking, etc. Il s'est occupé du booking pendant... Et il continue, d'ailleurs, avec notre manager, à toujours donner un coup de pouce pour ça. Et c'est quelque chose qu'il aime faire. Et donc, cette partie-là a toujours été gérée. Après, on a eu aussi la chance de s'entourer de personnes qui sont compétentes en graphisme ou des choses comme ça. Des choses qu'on n'avait pas, on regarde les compétences qu'on a dans le groupe, qu'est-ce qu'on peut faire nous. Après, on s'est dit, bah, là-dessus, à une époque, on avait un gars dans le groupe qui s'occupait des graphiques du groupe. Okay. Et bon, quand il est parti, on s'est dit, de toute façon, ça fait partie, il faut qu'on s'entoure de personnes comme ça. Donc, on a la chance d'avoir des amis qui sont compétents en certains domaines. Les deux clips là, qu'on a sortis, c'est Marine, donc c'est donc la copine de Didier qui les a fait.
Okay.
Tu vois, ça reste dans l'entourage tout proche des gens qui peuvent nous filer un coup de main parce qu'on n'a pas les budgets. Tu vois, on entend parler, on voit certains groupes, on dit ah ouais, ils ont claqué 4000 euros là pour faire ça. Ouais, mais nous on ne les a pas. Quoi. Donc c'est soit on ne sort pas de clips, soit il faut bien qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc il y a ça. Après, il y a aussi le côté ben, en fait, alors c'est compliqué quand tu n'es pas soutenu par des tourneurs, par des... Voilà, on voit bien, nous, quand on démarche pour des festivals, on se retrouve en concurrence avec des groupes qui sont dans des boîtes,
ouais.
et qui ont un pouvoir important, tu vois. Ça nous est arrivé même, je crois que c'était pour le Hellfest, un Hellfest qu'on était censé ouvrir sur la Warzone, et puis je crois qu'on a été sortis de l'affiche peu de temps après, parce que bah, y a quelqu'un de plus gros qui est arrivé en disant... Et puis, il y a beaucoup de tourneurs maintenant qui arrivent avec 5, 10 groupes à proposer. Et donc, tu prends pas le package. Et bah, si tu prends, il faut bien faire de la place. Donc, il y a des groupes qui vont sauter. Donc, quand tu es un groupe amateur, tu n'as pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a, bah, y a des lois du marché qui existent, etc. Mais en même temps, on est hyper libre, c'est-à-dire que tu disais, on n'a pas sorti des tonnes d'albums pour un groupe qui a 28 ans. On connaît des groupes qui ont notre âge, ils en sont à 20 albums. Mais ça n'a jamais été trop notre truc. Et en même temps, je te dis, on n'a pas ce besoin de produire parce qu'il faut être sur la route, il faut produire, il faut tourner, Nous, on fait à notre
rythme. Vous faites des produits qui vous tiennent à cœur. Au moment opportun.
Quand on estime qu'on a la matière, on se dit, bon, bah, maintenant, il serait temps d'aller en studio. Mais la condition, c'est qu'on ait 100% des morceaux qui nous plaisent. Mm-hmm. Moi-même, quand j'écoute beaucoup de disques, je me dis, oui, j'adore ce groupe, mais il y a 3 titres qui ressortent et tu sens que derrière, ça, c'est du remplissage. Quoi. Donc, ça me gêne toujours un peu, mais même des très, très grands groupes.
Hein. Ouais, malheureusement, ça arrive trop souvent. La pression des labels, hey, ton album doit sortir pour telle date, tu n'as pas le choix.
Parce que je pense que, à moins d'être un génie, tu ne peux pas sortir des perles tous les ans comme ça. C'est pas possible.
Non, c'est ça.
Donc, oui, il y a cette pression-là. Donc, après, je comprends pour les groupes qui vivent de ça, ils ont un besoin d'être présents. Il faut qu'ils sortent des albums et qu'ils tournent, et qu'ils sortent des albums et qu'ils tournent. Mais au final, quand je vois les discographies de ces groupes-là, c'est très souvent que j'ai les deux premiers albums et puis après je décroche parce que je dis bah ouais.
Ça arrive vraiment souvent, ça, le syndrome des 2-3 premiers albums sont excellents, puis après ça.
Parce que ce cap-là, c'est très compliqué. On réchauffe la gamelle, c'est la même chose en moins bien. C'est difficile.
C'est dur de rester pertinent, dans le fond, dans un univers aussi, quand tu produis aux 2 ans toujours le même CD. Là, c'est marteler la même affaire sans arrêt.
On a tenu à garder cette liberté totale et pas suivre non plus les... Parce que dans la scène hardcore, il y a eu des vagues. Tous les 3 ans, ça a changé complètement, radicalement de style. Et on s'est dit, on ne veut surtout pas nous suivre les modes du moment. On a notre identité musicale, on fait ce qu'on a envie de sortir, c'est comme on le ressent. Et si ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, ben on arrête. Mais on n'a jamais voulu dire, ah oui, c'est ça, c'est, le son, c'est comme ça, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, c'est Converge, allez, on fait du Converge. Non, c'est... Ouais. C'est pas là. Ah, maintenant, c'est Headwind, hop, virage, on part dans l'autre sens. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Ben, c'est, je me demandais justement quand vous parliez, tu parlais de ton style, de votre style, que vous avez toujours suivi la même ligne directrice, je vais dire ça comme ça. Une chose que j'ai remarqué en survolant votre discographie, vous avez pas beaucoup ou à peu près pas de ce que j'appelle de gros breakdown sale hardcore, mettons, je vais dire ça comme ça, là, qui est un peu typique du style. Puis je sais pas si c'est un choix que vous avez fait ou c'est juste quelque chose qui est arrivé par hasard ou. Je ne sais pas si je veux dire l'espèce de parce que j'ai avant, là, je suis dans un groupe death metal, mais avant, j'étais dans un groupe hardcore. Puis, il y a beaucoup, les groupes plus récents, je dirais, ils ont beaucoup l'espèce de gros riff ben down tempo qui arrive toujours à la fin de la chanson pour finir, là, qui était vraiment, qui a été beaucoup popularisé à. Par Hatebreed aussi dans le temps. Puis j'ai remarqué que c'est ça, j'ai remarqué que vous autres, vous n'avez à peu près pas. Puis je ne sais pas si c'est juste un choix que, ou c'est arrivé juste par hasard. Là, je me demandais. T'sais.
Alors en fait, je ne peux pas trop répondre pour Flo qui a composé la sortie d'album, mais quand on pose la question d'où ça vient, j'en ai aucune idée. Ça, c'est à un moment, ça c'est quelque chose qui sonne dans ma tête. Je prends une guitare et puis le riff, il sort comme il sort. Après, on fait du tri, etc. Mais il n'y a pas de... Au départ, ce n'est pas calculé, en fait.
OK.
Il n'y a pas, tiens, on prend une direction. Moi, je ne sais pas composer à la carte. C'est comme ça sort. Alors, j'ai la chance d'acheter Flo, qui lui a cette capacité-là. Il a joué dans des groupes de grind, dans des groupes... Il a eu plusieurs styles de métal, il y a eu plusieurs groupes dans différents styles de métal ou de hardcore. Et lui, il peut plus orienter sa composition. Moi, personnellement, ça sort comme ça sort. Et je suis incapable de dire d'où ça vient. Et même ça d'autant plus que ça ne correspond pas à ce que j'écoute essentiellement.
OK.
Okay. Mais il n'y a pas de calcul, se dire, tiens, là, ce morceau-là, oui, il faut, comme tu dis, freiner à la fin, il faut faire un truc bien lourd. Mm-hmm. Bah, si j'ai un riff lourd qui sort, il va sortir, mais je ne vais pas en dire, tiens, il faut que j'en fasse un.
C'est bien.
C'est calculé comme ça.
C'est organique en bout de ligne.
Oui, c'est ça, exactement.
Bien sûr, avant la prochaine question, ben, je vais présenter ma deuxième bière, qui est la Sin. Qui est une bière de Gallicus, une autre bière ici locale dans notre région de Gatineau. C'est une West Coast IPA. C'est une bière que j'adore. Puis c'est une que je m'achète assez souvent, mettons. Fait que je l'aime bien. J'y vais. Simon, je te laisse la parole.
Ouais, Dimitri, j'avais une autre question pour toi. Tu sais, ça, tu disais que vous frôliez le 1000 spectacles. Lequel, personnellement, pour toi ou pour le groupe, là, qui a été le plus marquant? Dans tout ce que vous avez fait.
Je vois, c'est à peu près tout le temps le même qui nous vient à l'esprit, c'est le Blood Axe Festival à Tokyo.
Ok.
Parce que pour moi, c'était un rêve de jeune musicien. Quand j'avais 20 ans, je me disais, ouais, le pays où j'aimerais jouer, c'est le Japon. Et je me disais, mais c'est impossible.
Ok.
Et puis, avec le temps, il y a un peu plus d'échanges. On était distribué depuis quasiment nos débuts, on était distribué au Japon. Et puis, donc, on avait des connaissances comme ça là-bas. Et un jour, on s'est dit, tiens, il y a moyen, en fait, on a été invité là-bas. Et donc, faire ce festival-là à Tokyo, pour moi, c'était une sorte d'avènement. Tu vois, c'est le plus gros événement hardcore du pays. Et bah forcément, quand tu vas à l'autre bout de la planète, il y a un côté exotique, il y a un côté, t'es dépaysé de partout. Donc ça restera dans les mémoires comme un grand moment. C'était plus que plein, la salle, je ne sais même pas comment ils ont rentré les gens, il y en avait partout. Et puis on a découvert le public japonais qui est un public de passionnés. je sais plus combien il y avait. Il y avait plus de 10 groupes, 10-15 groupes sur ce festival-là. Et dès le premier groupe, la salle est pleine. En fait. Chose qu'on ne connaît pas chez nous. Chez nous, quand il y a 15 groupes, les gens ils regardent les 3-4 gros noms et puis ils vont arriver. Alors surtout si ça joue en, si ça joue en plein après-midi, alors là, t'as personne. Alors, les groupes, ils sont contents, ils sont à l'affiche, mais ils vont jouer devant 5-10 personnes maximum.
Et on connaissait ici arriver. Au Québec aussi.
Oui, c'est pas mal la même
les
chose.
Les gens vont arriver pour les 3-4 têtes d'affiche et puis et c'est tout. Quoi. Et là-bas, on s'est dit, ben, à chaque fois, on jouait avec minimum 5-6 groupes et puis jusqu'à 15. Et en fait, dès le début, il y avait de l'ambiance. Quoi. C'était, ils supportaient tous les groupes. Quoi.
Ça, c'est vraiment, ouais. Vraiment cool.
Donc, on a vachement apprécié. Enfin, tout ce, ouais, c'est. J'espère qu'on aura l'occasion avant de s'arrêter d'y retourner. Ouais. Et pour emmener du coup les autres, parce qu'il n'y a que Didier et moi qui avons connu ça. Ouais. Et du coup, les autres, ils sont. Japon. Si on pouvait y aller, ça serait cool. Et ouais, ça serait avec grand plaisir qu'on retourne là-bas.
Êtes-vous déjà venu en Amérique du Nord, comme au Canada ou aux États-Unis, puis ces choses-là?
Non, jamais.
Est-ce que c'est dans les plans futurs?
On a. Alors, je ne sais plus, parce que celui-ci, c'est Didier qui s'occupe beaucoup de ça au niveau booking. Et il a regardé, il a vu qu'il y avait pas mal de groupes qui tournaient au Québec. Mais il a vu aussi que c'était des conditions, des freins un petit peu routes avec des 800 km de.
Beaucoup de routes à faire si vous venez au Québec.
Ça, en fait, c'est des choses qui sont fatigantes hein, de faire la route.
Mm-hmm.
Donc, mais on se dit que c'est certainement un endroit qui sera intéressant. Ça tend beaucoup plus que les États-Unis, où par expérience, j'ai envie de dire qu'ils exportent beaucoup de groupes, mais qu'ils ne sont pas très friands de tout ce qui vient de l'extérieur.
Ouais.
Et donc, nous, vu notre stature, je pense que jouer aux États-Unis, ça n'a aucun intérêt.
Ouais, non, c'est ça. Aux États-Unis, c'est probablement les grosses tournées qu'ils veulent. Mm-hmm. Ici, au Québec, moi, je veux juste voir des shows. Je veux en voir plus.
Si vous venez au Québec, je vous conseille de venir à l'été ou à l'automne. En fait, à l'automne, mieux qu'à l'été, ouais.
L'automne, c'est le best.
Ouais, c'est le best. Parce qu'à l'hiver...
L'été, il manque de monde parce qu'ils sont tous en camping. À l'automne, tout le monde n'a rien à faire. Ils vont être à ils vont être à toutes les shows.
Ouais. Puis l'hiver, ben, il y a des centimètres et centimètres de neige. Puis faire 400-500 km dans la neige, c'est pas tout le temps le fun.
nous, on ne sait pas rouler sur la neige. Hein.
Non, c'est ça.
je sais que j'avais vu des vidéos comme ça où les Québécois ils se foutaient un peu de notre gueule quand ils regardaient les informations françaises ou. Regardez, parce qu'il y avait 1 cm de neige et puis que tout le monde était en panique, les routes étaient bloquées. Ouais. Ça vous faisait bien rire. Je comprends.
Nous, 1 cm de neige, c'est rien, ça.
Un centimètre de neige, c'est comme une journée venteuse, mettons. Pour
dire, oh, oui, c'est ça, on est comme « oh, il a neigé ».
Un petit mardi ben normal, bien régulier.
Oui, c'est ça. Pas mal ce qu'on a eu cette semaine, d'ailleurs.
Oui, en fait, ouais, c'est ça. Pas mal ça.
Il y a une question que tu m'as inspiré avant le podcast, quand on discutait ensemble, justement. Tu m'as parlé de la vieille époque un peu, de quand vous avez commencé, de la distribution des fanzines, de la distribution qui n'est pas d'Internet et tout ça. Ça m'a inspiré la question suivante qui est, c'est quoi de cette époque-là que tu t'ennuies le plus? Puis qu'est-ce que tu es content que c'est plus comme ça que ça fonctionne?
Ha!
Ha!
Yolin, tu lances des questions bonbons en plein milieu. Là,
en plein
c'est
milieu.
Moi qui arrive à la fin avec la. C'est correct, j'aime ça.
Left field en plein milieu.
Je veux pas vivre dans le passé, mais je sais que ouais, je trouvais qu'il y avait des ambiances de concert qui étaient plus sympas, en fait. Où c'était beaucoup plus mélangé aussi. Nous, on a connu une époque hardcore où c'était vraiment très, très, très segmenté. Quand tu arrivais, tout le monde te regardait la tête aux pieds, comment tu es habillé, quel t-shirt tu portes, etc. C'était un petit peu comme ça. Mais au début, tu sentais qu'il y avait. C'était beaucoup plus mélangé, puis que du coup, on s'en foutait un petit peu du moment que tu es envoyé sur scène, on s'en fout que tu joues de ci, de ça. Voilà, c'était...
Le mélange des styles, il était juste plaisant et rafraîchissant, en fait.
Mais ça, c'est vrai qu'on l'a plus, on l'a un petit peu retrouvé justement quand on est en art basculé un peu dans la scène métal, où on s'est dit, en fait, voilà, si tu peux jouer avec des groupes qui n'ont rien à voir, tu joues avec Gorod, avec Abortide, nous on arrive, après tu joues, et en fait, ça passe très bien, alors qu'on ne fait pas du tout la même musique. Mais si
là, tu me parles, tu as cité deux des bandes que j'adore. Ouais.
Et on a eu l'occasion de jouer avec eux.
Ouais. C'est des excellents groupes français.
Ouais. Ça joue très, très bien. Mm-hmm. Ça joue super bien. Voilà, après maintenant, c'était quoi la suite de ta question aujourd'hui? Ce que j'aurais...
C'était en fait ce que tu t'ennuies et ce que tu t'ennuies pas du tout.
Ah non. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont mises aussi actuellement. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Tu vois, c'est pas du tout ma cam. Mm-hmm. Et il y a beaucoup de groupes qui ont une visibilité énorme sur les réseaux sociaux. Nous, on a un déficit d'image, je pense, par rapport à ça, parce qu'on est moins, on est plus de la vieille école et donc on est beaucoup moins présent que certains groupes qui font des tonnes de vues, puis après tu les vois sur scène, tu dis « Ah ouais, en fait c'est ça. » Ouais.
C'est... Dans le fond, tu es là pour laisser ta musique parler pour elle-même.
Ouais, c'est ça. Alors, du coup, dans la scène métal, on est très souvent le groupe découverte. Donc, c'est drôle. C'est bien, tu vois, on a presque 30 ans, on est encore classé en catégorie espoir, découverte. C'est cool.
c'est parfait, ça. Puis, regarde, vous avez commencé en 93. À cette époque-là, c'était quoi les influences du groupe pour commencer dans ce style-là?
Alors, je te citerai... On adore toujours Psychophytol. On écoutait Minor Threat. Mm-hmm. Qui au niveau même de l'idéologie c'était bien présent. C'était Gorilla Biscuits, Youth of Today, c'était Agnostic Front, c'était voilà, des groupes, tous les groupes avec lesquels on a grandi.
Ça me parle tout ça.
Ouais, ça c'est le style Simon.
C'est Covidal. J'avais un tatouage de ce Covidal quand je l'ai couvert parce qu'il était mal fait, là, mais ouais, dans ma jeunesse. J'arborais le dragon.
C'est le dernier groupe, les derniers groupes qu'on adore avec lesquels on n'a jamais joué. Voilà, c'est...
Oh,
ouais.
Le dernier qui nous reste à faire, à cocher.
Tu les as déjà vus live? Ils sont déjà allés dans votre coin, par exemple?
Ah, je les ai vus, je pense, une bonne douzaine de fois.
Ouais. Et puis, moi, j'ai eu une petite chance de les voir juste une fois, là, mais... C'est même à 12 fois, je ne me serais pas tanné, je pense. C'est vraiment l'énergie sur scène.
Quand je vois l'âge qu'ils ont, justement, c'est comme ça aussi que je booste un peu mon chanteur en disant, t'as vu, ils sont un peu plus vieux que nous encore. Et voilà, c'est ça, on voit tout le temps. C'est impressionnant.
Ouais.
C'est...
Je vais y aller un peu deep dans le style de Sick of It All. T'as pensé quoi des deux, trois premiers albums qu'ils ont fait quand ils ont changé de bannière, sont allés vers Fat Record?
Quand ils ont changé de?
Quand ils ont changé de compagnie de disques, ils sont allés avec Fat Record.
Oh, je me suis pas posé la question de
non?
Ça. Non.
Non, OK.
Ça a juste été une continuité.
Ouais, OK. Moi, j'aimais moins ça, personnellement. Mais...
Ouais.
Je sais pas, il y a eu un petit changement un peu plus grand public, je veux dire, sans moi, un peu moins agressif. Puis je me demandais si j'étais le seul sur la planète qui avait remarqué ça. Cool.
Alors, je t'avouerais que c'est pareil, même si c'est un groupe que j'adore, je pense que les 5-6 derniers albums, je les ai même pas écoutés.
OK.
Parce que c'est pareil, ça fait partie des groupes qu'on a sorti, mais des tonnes et des tonnes. Mm-hmm. Et puis dès que tu le mets, tu dis, oui, c'est du Psychophytol. Au bout d'une seconde, tu dis, ouais. C'est... Mais ouais.
Ben c'est lequel que t'aimes le plus de ce cover-là? Je suis curieux.
Just Look Around, je pense.
Bon choix.
Je dois te dire que je pense que j'ai jamais entendu ce cover-là.
Je ne sais pas à quel point tu aimerais ça. Yolin, c'est quand même assez punk rock, je dirais, pour un band hardcore. Puis tu sais que tu ne serais pas beaucoup punk, là. Fait que, mais à découvrir pour toi, je pense, quand même.
Je m'essayerai.
Ouais.
Si vous me dites le meilleur, je vais aller l'écouter.
J'envoie ça tantôt.
C'est good. Hey, justement, j'en ai une, Simon, une autre question bonbon un peu.
Oui, c'est correct. Vas-y.
Depuis tantôt, Dimitri, arrête pas de mentionner des groupes qui auraient aimé faire des spectacles avec des petits checklists pas réussis encore. Donc, tu as le droit de faire ton line-up. Tu as le droit de faire un festival, pas un festival nécessairement, un show. 4 groupes, dont vous. Les 3 autres groupes, c'est qui?
Ah, oh, alors attends, parce que là, je pense aux autres du groupe aussi. Ouais. on a un chanteur qui est un fan de Metallica. Voilà.
Donc, je pense Metallica.
Ouais. Un gros fan de Metallica. Il a chez lui, je pense qu'il doit avoir des collections les plus impressionnantes de Metallica.
Waouh!
Et en tout genre, il dégote des trucs incroyables. Slayer, on a toujours été tous des gros fans de Slayer. Et, bon, on a joué sur quelques festivals avec eux, mais ça reste un groupe préférence. Quoi. Je trouve que les.
Ben, vous fitez très, très bien avec eux. En fait, de style, ça se marie très bien.
Ouais, moi, je pense que toi, Jeff Hanneman, c'est le mec pour moi qui a sorti les meilleurs riffs de métal. Ouais, c'est resté, c'est gravé. Voilà, Psychofito, je te dis, parce que forcément, bah, ça, c'est dans nos racines et puis qu'on n'a jamais eu l'occasion de croiser la route.
Parfait.
Et, dans les gros groupes de métal, il nous reste Machinette qu'on n'a jamais fait. Et on a je sais qu'il y a Flo qui est un gros fan de Machinette. Je pense que si on avait ces 3.
Ça serait quand même très, très approprié d'ouvrir pour Machinette pour vous aussi. Encore une fois, les styles se marient très bien, je crois.
Ah, on signe direct. Hein, ça serait vrai.
Donc, bien sûr, on arrive à la fin de notre entrevue pour aujourd'hui. Je laisse toujours la plateforme à nos invités pour un petit mot de la fin. Puis après ça, je vais y aller avec ce qui s'en vient pour Metal Minded. Donc, bien sûr, Dimitri, je te laisse la plateforme. N'importe quoi que tu as le goût de dire par rapport à Primal Age ou peu importe. Vas-y.
Bah, écoute, là, je suis dans une phase où on n'espère qu'une chose, c'est jouer. Parce qu'on sait qu'on a eu énormément de retours hyper positifs sur cet album. Et à la fois, on est super content et à la fois, on est super frustré parce qu'on n'a pas pu le partager encore en live. Et c'est la chose qu'on aime. C'est super plaisant d'enregistrer un album. Mais notamment, on a Didier Auchan qui, lui, il fait les albums, mais ce n'est pas du tout son kiff. Lui, il a qu'une envie, c'est d'être sur scène et c'est là qu'il donne le meilleur lui-même. Même si en studio, il a été ultra, ultra performant. Et vraiment, là, ce qui nous manque, c'est de jouer parce qu'on s'est retrouvés bah, comme tout le monde. On n'a pas joué pendant plus de 600 jours, je crois. Et ça ne nous était jamais arrivé. Et là, je te dis, quand on a vu tous les retours de Chronique et l'album, il cartonne, etc. Quand est-ce que ça ne dépend pas de nous. Et vraiment, on a hâte parce qu'on sait que les... C'est la première fois qu'on remanie autant un set. Généralement, comme quand on sort un nouveau disque, on va incorporer 2-3 nouveaux morceaux et on va garder à peu près la même trame. Mm-hmm. Là, c'est la première fois qu'on se dit faut qu'on fasse de la place, il faut que ce morceau-là y soit, il faut que celui-ci y soit. C'est la première fois qu'on intègre autant de nouveaux morceaux, donc c'est plutôt bon signe. Et puis pour nous, c'est hyper plaisant aussi de jouer, même si on adore jouer les morceaux qu'on a 25 ans, mais. Voilà, là d'avoir enfin des nouveaux morceaux à présenter et qui se prêtent vraiment au live. Il n'y a pas trop de morceaux qui sont écrits pour du studio. Voilà, on sait que chaque morceau il a sa place. Et là, donc on trépigne vraiment. Là, c'est pour ça qu'on croise les doigts pour que les quelques concerts qui sont prévus, ils aient lieu.
Oui.
Et que ce ne soit pas encore annulé, parce que là, ça risque de mettre un petit coup de massue. Quoi, finalement, on repart parce que ça fait beaucoup trop long.
J'aimerais te mentionner un de nos auditeurs, un de nos bons chums, Phil Extrême, qui dit « Très intéressant d'avoir appris sur vous et d'avoir découvert en même temps excellent podcast. »
Donc, c'est gentil. Et puis,
vous faites des fans au Québec, puis ben moi je veux vous voir en show.
Hein. Ouais, moi aussi, ça seconde.
Alors, je pense qu'il y a peut-être plus de chances, du coup, si toi, tu traverses l'océan que le contraire, mais sinon, on ne sait pas. Si,
on ne sait jamais.
Une proposition intéressante pour tourner là-bas, je pense que ça serait super plaisant. Alors moi, je sais que j'ai un parrain québécois que j'ai vu une fois dans ma vie, j'avais 3 ans, je ne me rappelle plus lui.
Mon parrain. Et voilà, québécois. Une belle occasion de venir au Québec, rencontrer son parrain, faire une tournée. Ouais. Anyways, on arrive à la fin, bien sûr, chez Metal Minded. On est toujours là, on est toujours actif, on a tout le temps plein d'affaires. Donc, mercredi prochain, les reviews Metal Minded, cette semaine avec Klimbo et Max Pagé, bien sûr. Donc, on review le nouveau Hypocrisie, le nouveau Ossuaire, Massive Charge et Hands of Despair. Je trouve ça quand même très plaisant que sur le line-up que je dis, il y a 2 bandes français en plus. Fait que on review beaucoup de stock de partout. Dimanche prochain, on reçoit un band que j'ai bien apprécié, leur dernier album, le groupe Fuck Tout. J'aime le nom, j'aime le style, j'aime l'album. Je trouve ça malade. Ouais,
en plus d'aimer l'album, j'adore le nom d'album qui s'appelle Coke Computer. C'est merveilleux.
Donc, si vous ne connaissez pas, bien sûr, Fuck Tout, allez checker ça. C'est un esti de bon album cette année. Donc, merci beaucoup, Dimitri de Primal Age. Ce fut un grand plaisir de te recevoir. Bien sûr, je pense qu'on a le temps pour prendre Simon aussi. On va faire un petit after party s'il y a des gens qui veulent venir jaser. On va continuer à jaser avec Dimitri un petit bout. On ne le gardera pas trop tard vu qu'il est un petit peu plus tard que nous autres. Donc, si vous êtes intéressé à venir dire un petit coucou, venez sur le Zoom avec nous. Mais sur ce, bonne fin de soirée tous. Merci beaucoup et à la prochaine.
Hey, on est bien content que tu aies écouté jusqu'à la fin et que tu es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe. Va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!